en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Cher Jean Guéguinou, Madame la Présidente du Musée d'Orsay, chère Laurence Descartes, Madame la Présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, chère Marie-Christine Labourdette, merci d'être présente avec nous, Madame la Directrice Générale de l'Agence France Muséum, chère Anne Menihorn, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite, au nom de l'ensemble des membres de l'Académie des Beaux-Arts, la bienvenue dans cette salle des séances où nous tenons justement séance tous les mercredis après-midi. Je voudrais remercier d'être aussi nombreux pour entendre, écouter notre invité dans un instant parler du Louvre d'Abu Dhabi. Et avant de laisser la parole à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, qui, comme le veut l'usage, la coutume de notre compagnie, vous présentera, mais est-ce bien nécessaire, Jean-Luc Martinez. Je veux remercier notre confrère Marc Ladret de la Charrière, qui est ici présent avec nous, de cette initiative. Je souhaite rappeler à cette occasion que Marc Ladret de la Charrière a été président lui-même de l'agence France Muséum, en charge de la construction du musée du Louvre d'Abu Dhabi de 2007 à 2018. Et qu'il a été nommé président d'honneur de l'agence par le conseil d'administration et la ministre de la Culture. Voilà, je passe la parole à présent à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard.
Bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc nous accueillons un voisin, n'est-ce pas, que vous avez eu simplement à traverser sur cette belle passerelle, le pont, cher Jean-Luc Martinez. Il n'y a plus besoin de vous présenter, je vais quand même simplement rappeler que vous êtes agrégé d'histoire, diplômé de l'école du Louvre, que vous êtes membre de l'école française d'Athènes, pour laquelle de 93 à 96 vous avez fouillé à Délos et Delphes et travaillé à la rénovation du musée archéologique de Delphes, que vous avez rejoint le Louvre en 1997 en qualité de conservateur en chef du patrimoine, en charge des sculptures grecques, et que 10 ans plus tard, vous avez pris la direction du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, et que vous avez été nommé en 2013 président-directeur du musée du Louvre par le président de la République François Hollande, succédant ainsi à notre confrère Henri Loirette, et vous venez tout récemment d'être conduit à la tête du musée du Louvre pour un nouveau mandat de 5 ans, ce dont nous nous réjouissons toutes et tous. Au cours de votre premier mandat, vous avez particulièrement œuvré à l'amélioration des conditions d'accueil du public avec le réaménagement du hall sous la pyramide, la mise en place d'un centre d'interprétation, lieu d'initiation au musée et la création d'une petite galerie, un espace dédié à l'éducation artistique et culturelle présentant les œuvres dans un cadre plus intime. Particulièrement sensible à l'inscription du Louvre dans une perspective de rayonnement international, vous avez finalisé avec l'agence France Muséum en charge du Provet le dossier majeur et sensible du Louvre d'Abu Dhabi, inauguré le 11 novembre 2017 et auquel cette communication est dédiée. Vous avez d'ailleurs été le commissaire général de la première exposition de ce nouvel établissement intitulé « D'un Louvre à l'autre, un musée ouvert pour tous ». Vos très nombreuses publications touchent à la sculpture grecque et romaine, à la réception à l'époque moderne de l'art antique. En 2015, à la suite des destructions du patrimoine en Syrie et en Irak, vous avez remis un rapport au président de la République, François Hollande, intitulé « 50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité ». Vous êtes depuis 2017 président du Conseil scientifique de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. J'ai peur que vous ayez beaucoup de travail, cher Jean-Luc Martinez. Et puis que c'est une initiative franco-émirienne pour la protection et la sauvegarde du patrimoine en danger dans les zones de guerre. Et sans attendre, je vous laisse la parole.
Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mesdames et messieurs les académiciens, chers collègues, particulièrement heureux d'avoir à présenter ce qui est assurément l'un des plus beaux musées de ce début de XXIe siècle et auquel, avec d'autres nombreux qui sont ici et qui me font l'amitié d'être parmi nous, j'ai pu participer. Peut-être que je souhaiterais, en guise d'introduction, de rappeler sans doute ce qui est la clé de la réussite de ce projet, c'est qu'il s'agit d'un projet intergouvernemental, dans un, peut-être un moment où l'État français parfois vilipendé, il est bon de rappeler que certains succès sont liés à l'engagement plein et entier de l'État et de sa fonction publique d'État. Puisque, en effet, ce projet, il est né d'une volonté émanant de deux gouvernements, le gouvernement des Émirats Arabes Unis et le gouvernement de la France, liés par convention, dans un contexte particulier qui est celui du développement touristique et culturel de la capitale des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi. Vous voyez ici sur cette image ce qu'était l'île donc principale qui forme aujourd'hui donc le centre de la ville d'Abu Dhabi en 1955 et ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous pouvez imaginer en l'espace d'une génération le développement extraordinaire de cette cité. Désir émirien donc d'un accompagnement par la France, et il faut saluer ici les Émirats Arabes Unis qui ont choisi l'expertise française pour développer l'île de Saadiyat selon un projet d'île des musées. Vous la voyez ici en rouge et à droite une image virtuelle, avec l'idée de présenter, d'y proposer une offre culturelle riche avec plusieurs projets imaginés dès le début, notamment donc un autre musée, le musée national consacré à l'histoire des Émirats Arabes Unis, donc, et qui a pris le nom de la personnalité éminente qu'est le fondateur des Émirats Arabes Unis, Sheikh Zayed, le Zayed National Museum, dont les travaux devraient commencer dans quelques mois. Autre projet emblématique de cette île des musées, donc un projet imaginé par Frank Gehry d'un nouveau Guggenheim dédié à Abu Dhabi. Et au-delà donc de ces deux projets, bien entendu, le premier projet le plus important a été celui du Louvre, qui a été le premier des musées inaugurés. Mais je voudrais rappeler ici que sur l'île de Saadiyat, il y a également donc ce bâtiment, donc à Manarat, qui permet de présenter les expositions et dans lequel Laurence Descartes notamment avait présenté en guise de préfiguration la collection du Louvre à Abu Dhabi en 2013. Un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 et qui a permis, grâce à la continuité du service public français, vous voyez donc ici les acteurs principaux avec notamment mon prédécesseur Henri Loirette au second plan, le ministre de la Culture et Cheikh Sultan qui est le signataire de l'accord. Alors que stipule cet accord et cet accord très bien fait qui est public ? Permet aussi de rendre hommage à la transparence de l'administration française, qui fait que tout un chacun a pu à la fois mesurer l'importance et de cet accord et le critiquer ouvertement, ce qui est aussi une autre particularité française, la transparence et la polémique. Je me permets de vous rappeler en effet que cet accord, il lie les deux pays selon une temporalité que vous avez sous les yeux. La France s'est engagée pendant 10 ans à prêter des chefs-d'œuvre des collections françaises, donc pendant 10 ans, à y organiser pendant 15 ans des expositions, 4 expositions par an, et pendant 30 ans et 6 mois, donc d'attribuer ou de permettre l'usage du nom Louvre à ce nouvel établissement culturel. Pour ce faire, donc, le gouvernement français a créé une agence, l'agence France Muséum, donc que dirige aujourd'hui Anne Ménion, qu'a présidé Marc Ladré de la Charrière depuis les origines et jusqu'il y a quelques semaines seulement. Et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est grâce à cette agence que donc ce projet a pu se développer. Bien entendu, autre acteur de cette aventure, les ateliers Jean Nouvel, je vais bien entendu en dire plus qu'un mot, puisque une des clés de la réussite de ce musée, c'est également d'abord le musée. Et côté émirien, le département de la culture et du tourisme. Un mot de l'agence France Muséum pour que vous compreniez justement la manière dont ce projet s'est monté. Cette agence réunit à la fois donc des institutions partenaires que vous avez sous les yeux, sous la forme d'une partie d'actionnariat et de musées prêteurs. La plupart donc des grandes collections, enfin toutes les grandes collections nationales en font partie. Donc c'est là aussi une forme de nouveauté, puisque j'essaierai en conclusion de tirer des éléments qui expliquent aussi les clés de succès de ce musée, c'est cette synergie qui a été créée par l'agence France Muséum. C'est le premier projet finalement qui a permis de réunir l'expertise et l'excellence des musées français. Les missions de cette agence sont donc très précises et variées, à la fois définir le projet scientifique et culturel, assister pour la maîtrise d'ouvrage, y compris la muséographie, la signalétique et le multimédia, donc les équipes émiriennes et leurs prestataires de services, coordonner les prêts français et l'organisation des expositions temporaires, assister la partie émirienne pour constituer une collection permanente, vous vous souvenez peut-être que c'était un des éléments clés des discussions des années 2007, et assister à la politique des publics. Alors cette coordination des prêts français est peut-être le résultat le plus remarquable, parce que pour la première fois on peut voir hors de France, donc réunit le meilleur des collections françaises, ce qui permet aussi de souligner la continuité, la complémentarité des musées nationaux. Je répète, l'administration française donc est assez bien organisé, et l'ensemble des périmètres des musées prêteurs permet ici de dessiner une histoire et une évolution de culture de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à la création du 21e siècle, avec, comme vous le voyez, des œuvres majeures prêtées à Abu Dhabi. Mais l'aspect le plus novateur de cette collaboration a sans doute consisté en l'assistance, l'expertise, pour la première fois, donc dans la constitution d'une collection permanente. Et on doit à Laurence Descartes, ici présente, à la fois d'avoir imaginé les processus d'acquisition et d'avoir osé un jour. Vous avez ici la première acquisition faite pendant la vente fameuse de la collection et de la dispersion de la collection Berger Saint-Laurent, la première œuvre entrée au musée du Louvre à Abu Dhabi. Une collection riche, constituée aujourd'hui d'environ 630 œuvres, à la fois donc des œuvres majeures du XXe siècle, du XIXe siècle, mais également quelques jalons de la peinture ancienne. Ici, notamment un tableau de Bellini, un tout petit et merveilleux tableau de Murillo. Collection qui a été complétée lorsque Jean-François Charnier, qui a succédé à Laurence Descartes à la tête de la direction scientifique de l'agence, a complété cette collection d'un nombre assez important de chefs-d'œuvre dans le domaine archéologique. Voilà deux des chefs-d'œuvre entrés récemment dans les collections du Louvre à Abu Dhabi. Un extraordinaire dragon de l'époque des royaumes combattants chinois, donc présent dans la collection Stockley donc depuis le début du XXe siècle, et un extraordinaire lion donc d'art, chef-d'œuvre d'art islamique, avait été d'ailleurs présenté au musée du Louvre à l'exposition donc consacrée au Maroc et à l'Espagne médiévale. Parmi les chefs-d'œuvre des collections archéologiques du musée du Louvre à Abu Dhabi, on compte également donc cette figure provenant de Bactriane, ou cet extraordinaire sarcophage égyptien. L'occasion, avec aussi les arts asiatiques ou les arts donc africain, de rappeler que, alors que beaucoup disaient qu'il était impossible de constituer une collection d'excellence en ce début du XXIe siècle, les équipes françaises ont montré leur valeur en réunissant donc une collection, certes encore modeste en nombre, mais pas en qualité. Et je me permets de rappeler, même si je ne dirai pas plus sur cette œuvre, que, comme vous le savez, le Salvator Mundi va bientôt de Léonard de Vinci va bientôt être présenté au Louvre à Abu Dhabi. Une collection, la création et l'élaboration, la conception d'un projet scientifique et culturel que l'on doit, et je me permets à nouveau d'insister, à l'engagement de la France. Je veux dire qu'il ne s'agissait pas ni d'une stratégie du musée du Louvre, ni d'une volonté commerciale ou, je ne sais pas, d'expansionnisme. On parle de soft power avec le franglais qui caractérise aujourd'hui la culture française. Non, il s'agissait d'abord d'un désir des Émiriens d'être accompagnés dans leur projet de développement culturel et de la confiance qu'ils ont placée en la France. Et je me permets de nouveau d'insister, sans cet accord intergouvernemental, et beaucoup d'autres projets de nature privée ont échoué, et sans la création de l'Agence France Muséum, ce projet n'aurait jamais abouti. Alors, comme cela a été aimablement rappelé, donc ce musée a vu le jour. Voilà les étapes principales de son développement. La signature de l'accord en mars 2020, 2007, les premières acquisitions en 2009, la création donc de maquettes à échelle 1. Donc dès 2009, la présentation et la volonté de créer un public de proximité avec la création donc de conférences à Abu Dhabi autour des œuvres à partir de 2011. L'année 2013 a été aussi un tournant avec la présentation de la collection du Louvre Abu Dhabi à Abu Dhabi même, exposition qui a été reprise et développée à Paris en 2014. En 2015, élément crucial avec la couverture du dôme du musée, et en 2016, l'inauguration de salles dédiées donc est lié à ce projet au Louvre en 2016. La mise en eau du site a été faite également en 2016 et on l'a rappelé, inauguration par le président de la République française Emmanuel Macron le 9 novembre 2017 et première ouverture au public à partir du 11 novembre. Un moment de festivité qui a permis en effet à tout un chacun de découvrir les merveilles rassemblées. Une couverture presse assez exceptionnelle, je pense que c'est un des événements, cette ouverture en novembre 2017, les plus couverts dans le monde des médias et dans la presse en particulier. Alors je voudrais consacrer le temps que vous me donnez, au-delà de ces éléments d'introduction, à vous présenter à la fois le bâtiment et vous présenter la collection à la manière dont elle est présentée. Beaucoup de commentateurs ont parlé du plus beau musée du XXIe siècle. Il ne m'appartient pas peut-être d'être aussi admiratif. Mais je voudrais souligner ici, et particulièrement dans cette académie, le travail de Jean Nouvel, à la fois architecte et muséographe de ce musée. En vous présentant un dessin devenu fameux, une esquisse du projet, puisque le projet, je me permets de le rappeler, et le choix de Jean Nouvel est antérieur à l'accord signé entre les deux gouvernements en mars 2007. Donc l'architecte a été choisi avant le projet et nous avons pu travailler non pas à une adaptation de l'architecture au projet, mais plus exactement à véritablement créer une synergie entre la collection naissante et l'architecture. Ce qui est dans la vie d'un conservateur, enfin je pense que Laurence dirait la même chose que moi, une chose très très exceptionnelle, d'assister à la fois à la création d'un établissement et en même temps de contribuer à son développement. Alors vous le voyez ici dans ces vues au moment du concours, Jean Nouvel a imaginé une ville-musée sous la forme d'une médina, la référence est clairement la ville arabe, organisée autour d'une place, où je reviendrai là-dessus, est couverte de l'ombre d'une coupole. Donc, au-delà donc de l'image, j'en insiste sur l'incarnation dans un pays donné. Nous sommes ici aux Émirats Arabes Unis. Il a évoqué, même si aujourd'hui c'est plus une légende peut-être que la réalité, donc il a évoqué la ville principale des Émirats, la plus ancienne, la palmeraie d'Al Ain, qui se caractérise justement par cette palmeraie qui existe depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ et qui crée une zone d'ombre cachant, abritant, protégeant donc la vie. Et c'est l'image qu'a voulu Jean Nouvel à Abu Dhabi. Alors l'exploit technique et architectural a consisté à créer cette coupole à 40 mètres de hauteur, qui est à peu près, qui a très précisément d'ailleurs le diamètre qui permettra à cette coupole de rentrer dans la cour carrée, pour que vous ayez une idée de l'échelle donc de ce bâtiment, qui est soutenu par 4 piliers dissimulés dans l'architecture, qui pèsent plus de 7500 tonnes, et qui a l'air d'être suspendu, et c'est un des effets magiques de cette architecture. La voilà en cours de construction, et voilà l'effet voulu donc par Jean Nouvel, à la fois donc d'une coupole ouvragée, ouverte sur le soleil, avec les rayons lumineux donc qui percent donc cette coupole et qui joue. Vous voyez les taches que vous voyez à gauche, notamment sur les murs, bougent tout au long de la journée. Ce qui fait qu'un des plaisirs de la visite de ce musée, c'est aussi de s'y promener et de constater les effets du soleil, donc très différents entre le matin et la fin de la journée. Permet de vous montrer un certain nombre de ces vues, et vous voyez en effet donc ces bassins d'eau, cette place principale avec au fond sur votre droite, sur cette image, les galeries permanentes et devant vous, la galerie des expositions temporaires. Autre vue qui vous permet d'apprécier donc cette médina, cette ville-musée qui permet en effet d'aller d'un bâtiment à l'autre avec ses taches de lumière. Autre, bien entendu, défi, installer un musée sur l'eau. Donc, architecturalement, ça a été fait sous la forme donc, de digues protégeant la zone de construction et une mise en eau tardive, comme je vous l'ai dit. Donc, le bâtiment lui-même est construit sur le dur, est construit donc sur l'île. Hein, il n'est pas construit sur une forme de polder, mais il est entouré des eaux, ce qui donne une forme d'image de Venise aux Émirats arabes unis. Alors un bâtiment très exceptionnel que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre de Jean Nouvel, qui a bénéficié aussi d'une qualité d'exécution exemplaire. Mais ce bâtiment abrite également donc une collection qui a plus d'un titre, je crois, marque et marquera un tournant dans l'histoire des musées. Un mot en effet sur la manière dont nous avons travaillé avec les équipes de l'Agence France Muséum et les équipes des ateliers Jean Nouvel pour faire en sorte que l'offre culturelle se développe dans ce bâtiment. Vous avez ici un plan, on a retiré la coupole, un plan de l'ensemble des espaces. Et vous voyez ici, donc en jaune, les bâtiments qui forment l'entrée du musée, donc une entrée finalement assez vaste. Vous voyez en rouge les bâtiments formant les galeries permanentes, donc une succession de petites salles sur lesquelles je reviendrai, qui forment à peu près, vous le voyez, 7000, un peu moins de 7000 mètres carrés. Donc un musée aussi aux proportions modestes. 7000 mètres carrés, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus les 70 000 mètres carrés ouverts au musée du Louvre, par exemple. Hein. Vous ne voyez aucune présomption de ma part, mais c'est pour vous donner une échelle donc, de grandeur. Donc en rouge ici, les collections permanentes. Et vous voyez en orange, donc orange moutarde, le bâtiment de collection des expositions temporaires, environ un peu plus de 2000 mètres carrés, donc aux 6700 mètres carrés de collection permanente s'ajoutent à peu près 2000 mètres carrés d'exposition temporaire. Et je me permets d'attirer votre attention sur le petit bâtiment carré orange qui forme le musée des enfants, qui est une des originalités également de la proposition que nous avons faite donc aux Émiriens. Et en violet, les bâtiments que sont l'auditorium et les différents restaurants. Alors, en ce qui concerne les collections permanentes, comment, et ça c'était un des grands défis de l'équipe scientifique de l'agence France Muséum, comment créer un nouveau musée et comment imaginer un récit qui corresponde à la fois à l'état des connaissances aujourd'hui des cultures du monde. Vous savez qu'une partie des historiens se sont intéressés plus récemment à la question justement de l'histoire vue à l'échelle du monde. C'est le cas d'un certain nombre d'historiens qui travaillent sur les années 1500, sur le XVIe siècle, mais également donc ce sont des points de vue assez communs pour le XIXe et le XXe siècle. Mais là, il s'agissait non pas d'attirer l'attention sur tel ou tel moment d'une histoire que les anglo-saxons appellent globale, mais d'être en mesure d'écrire une histoire de l'art, une histoire des arts visuels pour l'ensemble des cultures du monde, de la préhistoire à la création contemporaine. Le défi n'était pas mince et comme vous le voyez, il a d'abord été construit au travers donc de ces 12 galeries, 13 si l'on compte la galerie qui s'appelle la cosmographie. Donc, justement, en renonçant aux césures traditionnelles de l'histoire de l'art vue depuis l'Occident, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine, puisque cette temporalité qui vaut pour l'Occident ne correspond pas à l'ensemble des civilisations. Donc un parcours qui insiste, je ne vais pas pouvoir vous le présenter dans son entièreté, mais un parcours qui insiste à la fois sur la tension qui peut exister entre la culture locale, c'est-à-dire que se passe-t-il aux Émirats arabes unis dans le temps et dans la période qui est évoquée par telle ou telle salle, et par ce qu'il se passe dans le monde, c'est-à-dire cette tension entre le local et le global, pour utiliser le vocabulaire anglo-saxon. Pourquoi j'utilise le vocabulaire anglo-saxon ? Parce que la science anglo-saxonne a imaginé ce terme, ce barbarisme qu'ils appellent glocal, donc qui est en effet cette volonté de rendre compte à la fois d'un phénomène incarné dans la réalité d'un pays et de l'inscrire dans une histoire mondiale. C'est un défi qui est propre aujourd'hui à l'ensemble des musées du 21e siècle. Comment inscrire une culture, à un moment donné, de la culture d'un pays ou d'une civilisation dans une histoire globale. Alors, la proposition qui est faite à Abu Dhabi, justement, c'est à la fois dans chacune des espaces et des galeries de mettre en scène les Émirats arabes unis, le Proche-Orient et la péninsule arabique en général, mais également de raconter une histoire du monde en insistant, il s'agit d'un musée d'art visuel. Là aussi, pardon d'utiliser des termes anglo-saxons, hein, puisqu'il s'agit d'un musée non pas de beaux-arts, mais d'un musée d'art visuel, au sens où les révolutions dans le domaine des arts visuels sont mises en valeur. Quelles sont ces révolutions ? Donc ce musée insiste également sur les révolutions techniques, l'invention de la monnaie, l'invention du papier, l'invention donc de l'imprimerie, l'invention de l'estampe, l'invention de la photographie, l'invention du cinéma, ces révolutions techniques qui ont contribué à diffuser la culture des images et qui expliquent qu'au XXIe siècle, une partie de plus importante de l'humanité partage une culture visuelle commune. Donc le point de vue, il est celui-ci, de partir de la situation aux Émirats, dans cet état finalement à la fois ancien et jeune, dans lequel en effet une partie des populations ont accès à une culture visuelle qui est à la fois faite de références au continent asiatique, puisque l'Inde et l'Iran sont tout proches, et en même temps baignés de culture occidentale. Donc comment expliquer cet univers dans lequel nous baignons au XXIe siècle, et c'est le cheminement qu'on vous propose, qu'on peut faire à la fois dans un sens chronologique, donc il s'agit d'un parcours chronologique, donc des origines de l'humanité dans la salle 1 à la scène internationale du XXIe siècle dans la salle 12, ou qu'on peut faire également en remontant la chronologie, donc en partant de la situation actuelle, donc au XXIe siècle, et en remontant le temps. Alors, quelques images pour vous montrer à la fois la muséographie proposée par Jean Nouvel et les collections, et vous donner envie, si vous n'y êtes pas encore allé, d'y aller. Donc, et de rendre hommage d'abord à ce parti pris. Je vous présente ici la salle d'introduction du musée, la première salle des collections permanentes, un vrai parti pris qu'on doit à Jean, puisque le public entre pour la première fois dans le musée après les nombreuses galeries d'introduction qui forment l'entrée, et il n'a pas encore vu le bâtiment que vous avez vu. Donc la première fois qu'il accède au bâtiment, c'est dans cette salle où par le toit il peut voir la coupole. Donc ça, c'est une des clés de compréhension du bâtiment de Jean Nouvel, cette relation entre le dedans et le dehors, c'est-à-dire le fait que ce bâtiment, il est à la fois abrité par la coupole de la lumière et de la chaleur, bien entendu, mais il ne cache jamais l'extérieur. Et que dans chacune des salles, il y a ce jeu sur le dedans et le dehors, qui est aussi constitutif de l'architecture arabe, hein, puisque avec la cour, la fermeture sur l'extérieur et l'ouverture de l'intérieur des maisons vers une cour, il y a ce jeu. Autre jeu aussi, c'est la métaphore de la carte marine, puisque vous voyez au sol, vous devinez au sol, la côte des Émirats Arabes Unis, autour d'une rose des vents incrustée en marbre de couleur, je reviens à la photographie précédente, comme une métaphore de ce qu'est le musée aujourd'hui, un lieu dans lequel on peut aussi voir des repères de l'histoire du monde, des repères chronologiques, un lieu dans lequel peut-être on peut comprendre le monde, se repérer et se comprendre peut-être soi-même. Avec, vous le voyez, des vitrines d'une audace singulière, on peut dire cela comme ça, puisqu'elles suivent les lignes de cette carte maritime, donc avec des objets qui semblent suspendus, puisque, comme vous le voyez, ils reposent sur des bases donc dans un matériau transparent qui nous a valu beaucoup, beaucoup d'essais pour arriver à ce résultat. Alors, ce lieu d'introduction est un lieu aussi de questionnement, puisqu'y sont rassemblées des œuvres des musées prêteurs et des collections du Louvre à Abu Dhabi, avec la volonté, là aussi, de tout de suite mettre en scène ces œuvres. Qu'est-ce qu'on peut voir au Louvre à Abu Dhabi? Des œuvres des musées français et la collection nationale donc d'Abu Dhabi, avec la volonté au moins de susciter la curiosité. Qu'est-ce que nous allons voir dans ce musée? Ici, vous le voyez avec trois œuvres, une africaine, une égyptienne, donc africaine également, et un ivoire gothique. Au-delà donc d'une simplification formaliste, de figures féminines haletantes, bon, qu'est-ce qu'il y a de commun, au-delà des civilisations et des cultures et des techniques, à des œuvres de ce type? Ce questionnement sur qu'est-ce qu'il y a de commun aux cultures humaines, il constitue le fil rouge qui nous permet donc de traverser ces salles. Alors, parcours chronologique, au-delà de cette salle donc d'introduction, vestibule donc qui à la fois pose les questions et souhaite susciter la curiosité des visiteurs. Le parcours est chronologique avec à chaque fois cette volonté de rappeler l'histoire locale et de l'inscrire dans une histoire mondiale. Vous en avez un très bon exemple ici, avec la première salle consacrée au premier village, c'est-à-dire aux cultures néolithiques, donc du 9e millénaire au 4e, 3e millénaire, où vous avez au centre de cette salle un dépôt très spectaculaire des musées de Jordanie. Donc vous savez peut-être que, de la même manière, la plus ancienne sculpture montrée au musée du Louvre est une œuvre jordanienne, donc dépôt donc du musée d'Amman. Donc de la même manière, donc le parcours chronologique commence par ces mystérieuses statues, ici sans doute la plus spectaculaire de l'ensemble retrouvée, statue double, donc dépôt du musée de Jordanie, et vous avez au fond, vous le voyez puisque c'est le moment où la céramique ou la terre cuite est développée un peu partout dans le monde, c'est le seul musée au monde dans lequel vous avez à la fois, vous devinez ici, un vase de la culture Jomon, la culture néolithique du Japon, un vase donc de la culture néolithique du monde chinois, et puis des productions iraniennes, donc ou mésopotamiennes et égyptiennes. Et je crois que c'est le seul musée, je sais que c'est le seul musée au monde où ce phénomène néolithique est montré pour l'ensemble de la planète. Alors, ce parti pris, à la fois donc d'intriguer par des œuvres marquantes et en même temps de développer donc une histoire à l'échelle du monde. On le retrouve bien entendu pour toutes les cultures de l'Antiquité, après les premiers villages, les premiers empires. Ici, un des chefs-d'œuvre que j'ai déjà évoqué de la collection d'Abu Dhabi, donc ce sarcophage égyptien d'une princesse de la 25e dynastie, associé à des œuvres majeures du musée du Louvre. Vous reconnaissez ici un des goudéas du musée du Louvre, ou cette statue colossale de Ramsès II, et ou encore, pour l'art grec, des œuvres aussi importantes, donc l'Athéna de l'ancienne collection Mattei du musée du Louvre. Alors, au-delà donc de ces œuvres majeures, qui constituent des jalons de ce parcours, l'esprit de ce musée consiste aussi, je vous l'ai dit, c'est un musée de civilisation, de culture visuelle, à mettre en valeur des moments clés du développement de ces cultures et d'évoquer notamment les systèmes philosophiques et les systèmes de pensées qui sont constitutifs de ces cultures. À titre d'exemple, ici, cette tête d'un Bouddha du Gandhara, ou ce petit bronze, ces deux pièces appartenant aux collections d'Abu Dhabi, évoquant les rituels confucéens, associés à cette tête donc de Socrate des collections du musée du Louvre, à un moment où, en effet, où se constituent les grands empires, donc entre le 6e siècle, le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ, un moment charnière où se constituent des grandes cultures, aussi bien dans le continent, sous-continent indien, en Chine et en Asie centrale, que dans le bassin méditerranéen, et que s'élaborent des canons de représentation qui vont marquer l'histoire de l'humanité dans trois ères de civilisation. Voilà donc un peu l'esprit de cette collection et de ce parcours, avec la volonté aussi d'incarner ce parcours avec des moments clés et des personnalités. Alors c'est aussi un musée qui ose un retour, non pas à un culte des personnalités, mais à la mise en valeur de certaines personnalités de cette histoire mondiale. C'est le cas ici avec Alexandre le Grand et Auguste, donc l'Alexandre le Grand provenant de Délos, des collections du musée du Louvre, hein, objet sculpture ainsi présenté d'ordinaire dans la salle de la Vénus de Milo, et un extraordinaire portrait d'Auguste qui appartient aux collections du musée. L'esprit de cette collection, elle est aussi incarnée par ce rassemblement que vous avez pu voir peut-être en 2013 dans l'exposition de Laurence Descartes ou en 2014 quand elle a repris cette exposition au musée du Louvre avec ce Bodhisattva du Gandhara et ce Togatus, donc deux œuvres des collections qui montrent justement. On parle souvent, on abuse parfois du terme de dialogue des cultures et des objets. Les objets ne dialoguent pas, les cultures à peu. En revanche, il y a là une diffusion des formes et des répertoires qu'on peut expliquer et qu'on peut chercher à comprendre. C'est le cas ici avec ces deux œuvres. Ce qui pouvait s'incarner, bien entendu, pour les cultures préhistoriques, néolithiques et l'Antiquité, s'incarne différemment, bien entendu, à l'époque que nous qualifions de médiévale. Et un des enjeux et un des défis était de pouvoir représenter donc les cultures religieuses sans faire de parallélisme, sans faire d'angélisme ou de comparatisme absurde, tout en présentant ce que l'on peut qualifier de religion universelle, c'est-à-dire des religions qui sont nées dans un foyer, qui sont développées dans d'autres. C'est le cas, bien entendu, du judaïsme, c'est le cas du christianisme, c'est le cas également du bouddhisme ou de l'islam. Née dans une culture et qui s'est développée, et qui a développé des formes d'art complètement différentes dans d'autres cultures. Vous avez ici un bon exemple avec la volonté, avec les noms de Dieu, hein, et c'est intéressant, je me permets la nuance, hein, puisque Dieu est miséricordieux, à la fois dans certaines formes de bouddhisme, en islam et dans le monde chrétien, mais cette épithète de miséricordieux n'a pas du tout la même signification, et surtout, il n'a pas du tout la même conséquence dans le domaine des arts. Le Dieu miséricordieux des terres d'islam explique le goût pour la calligraphie et le goût pour la culture du livre. Et vous avez ici un magnifique Coran illustré, puisque vous savez que chaque sourate du Coran commence par la récitation de « Dieu est miséricordieux », alors que la miséricorde vue dans le christianisme explique le développement d'une forme de statuomanie, hein, qui est une des caractéristiques de la culture occidentale. C'est parce que Dieu est incarné et qu'il est miséricordieux que ce type de statue existe. Et je suis trop ignorant pour développer les mêmes arguments dans le monde bouddhiste, mais la sculpture est également bouddhiste en raison, dans le monde bouddhiste, il y a également, en tout cas, par exemple ici en Chine, le même type de développement qui explique le développement d'une sculpture de tradition bouddhiste. Alors là aussi, je vous ai dit que l'esprit de ce musée, c'est cette relation entre ces cultures du monde et une incarnation locale. Je voudrais souligner ici que les autorités émiriennes ont choisi un certain nombre d'œuvres qui montrent justement l'écho de ces religions universelles sur leur propre territoire, et c'est un signe, je dirais, également fort politiquement, puisqu'ils ont souhaité présenter, par exemple, le décor d'une église nestorienne, c'est-à-dire d'une église de tradition chrétienne, donc d'une de ces, ce que l'Église catholique considère comme une hérésie, mais donc d'une de ces courants du christianisme primitif, élément de cette église nestorienne découverte aux Émirats arabes unis. Donc, élément donc politiquement très fort, puisqu'il s'agissait d'affirmer la présence chrétienne antérieure à l'islam aux Émirats arabes unis sous la forme donc de ce décor d'église. Alors il existe également une salle dans laquelle à la fois la question de l'invention du papier, sa diffusion et l'invention donc et le développement donc de l'écrit, des ateliers et donc la diffusion de ces textes est au cœur donc de cette mise en scène avec par exemple ici cette page du fameux Coran bleu, ou cette Torah qui provient du Yémen, là aussi, hein, commande faite par les Émiriens pour que les livres sacrés de l'ensemble des religions soient présentés. Et ce qui est intéressant ici, au-delà donc, de la culture juive dans le monde yéménite, c'est bien entendu le fait qu'il s'agit non pas d'une Torah, mais d'un livre, et que le format même du livre, hein, c'est « Révolution technologique », explique la diffusion également de la pensée. Alors, le parcours se poursuit également avec la volonté d'évoquer les routes de diffusion. Je répète, c'est un musée de civilisation, route de l'encens, route de la céramique, route commerciale, qui explique la diffusion des répertoires, avec quelques rencontres, comme par exemple ici, cette œuvre insigne du département des arts de l'islam du musée du Louvre, ce petit lion provenant d'Espagne, donc un décor de fontaine, donc chef-d'œuvre islamique, et puis cet aquamanil de Nuremberg, des collections donc d'Abu Dhabi. Donc comment ce répertoire s'est-il diffusé? Comment un répertoire né en Asie ou en Asie centrale et développé dans le monde islamique a été connu en Occident? C'est aussi ce que la collection réunissant les chefs-d'œuvre des musées français et d'Abu Dhabi permet de mettre en scène. Voilà donc notamment le lion dont je vous ai parlé. Alors, un des pivots et un des moments clés de ce parcours, c'est la période 1500, avec une salle imaginée avec nos collègues de la Bibliothèque nationale de France, autour de la question donc de la représentation du monde et de la cartographie, qui était aussi l'objet de la deuxième exposition donc qui s'est tenue à Abu Dhabi. Moment clé, puisque c'est la première fois vraisemblablement que l'humanité, enfin que des hommes font le tour complet de la planète, avec des conséquences, alors conséquences bien entendu qui ne sont pas toutes positives en matière de développement à la fois des maladies et donc des guerres, mais on a voulu insister autour de cette salle consacrée à la cosmographie, à la révolution que représente la représentation des autres cultures. Et les galeries, en effet, consacrées au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, insistent sur ce temps des échanges. Donc, à la fois donc, à l'époque de la Renaissance, vous savez que le musée du Louvre a consenti ce prêt spectaculaire, hein, du seul tableau de Léonard présenté avec celui qui est à Washington hors d'Europe, hein, donc la belle ferronnière. Mais je voudrais souligner que ce tableau est présenté côté d'une vitrine présentant donc des manuscrits de la Bibliothèque nationale montrant les recherches en mathématiques, donc à la fois dans le monde arabe et dans le monde occidental, au moment où justement en 1494, Léonard imagine et travaille et étudie les mathématiques et perçoit la peinture comme un des éléments de sa vision mathématique du monde. Et là encore, c'est, je pense, le seul musée où on présente de la peinture avec des manuscrits scientifiques. Donc, des salles consacrées à la commande de royal et ce grand phénomène avec des prêts spectaculaires, comme vous le voyez, du château de Versailles, mais également, vous voyez, la volonté de montrer l'émergence de l'individu et le culte du héros, donc dans la culture du XVIIIe siècle, avec ici cette rencontre, une magnifique acquisition donc d'un tableau américain avec portrait de Washington, et vous le voyez, un autre prêt spectaculaire du château de Versailles, puisqu'il s'agit donc d'une des versions qui semble être la version la plus originale du Napoléon de David, que vous voyez qui connaît un fracassant succès aux Émirats arabes unis. Le 19e siècle, le choix a été fait, là aussi avec des prêts très spectaculaires que vous voyez donc ici du musée d'Orsay, à la fois prêt important du musée d'Orsay et acquisition aussi comme ce très beau petit Gauguin, le choix a été fait de présenter l'irruption de la modernité, puisque c'est une salle qui est construite avec l'invention de la photographie et du cinéma, là aussi, pour mettre en valeur la révolution technologique qui s'empare du monde et qui fait que les images se diffusent de manière accélérée en cette deuxième moitié du 19e siècle pour arriver à ces révolutions que sont les avant-gardes du 20e siècle, avec la volonté aussi de montrer que ce n'est pas toujours de l'Occident vers l'Orient. Voilà aussi un des éléments phares de la présentation à Abu Dhabi. Deux acquisitions majeures du musée, à la fois une double anthropométrie de Klein, donc lui-même et son épouse, et vous avez à droite un tableau de Shiraga. Or, vous savez sans doute que ce mouvement est d'abord né au Japon et ensuite été introduit en Occident. Donc, moment tournant dans les années 1960 où la peinture occidentale regarde donc ce qui se passe comme avant-garde, aussi bien, bien entendu, aux États-Unis qu'au Japon. Alors, j'ai essayé ici de vous présenter l'ambition, à vous de venir voir le résultat. J'ai essayé de mettre en valeur ce qu'est l'esprit de ce musée. Et je voudrais dire qu'il y a en effet également ce petit bâtiment qui est le musée des enfants, qui permet de présenter des œuvres originales. Vous voyez ici un certain nombre de reproductions, mais nous avons souhaité la présence d'œuvres originales, et œuvres originales à la fois de la collection et qui ensuite œuvres qui rejoindront la collection. Il s'agit de faire, non pas de créer un espace à part pour, pardon de cette familiarité devant vous, se débarrasser des enfants pendant qu'on visite le vrai musée, donc, mais de créer un vrai lieu d'apprentissage où on apprend à regarder les œuvres, avec l'idée ensuite que les enfants qui auront vu des œuvres et auront appris à les regarder dans ce musée des enfants, ils retrouveront dans le vrai musée, le musée, donc voilà, et voir, seront capables, dans une visite familiale, de converser avec leurs parents sur des objets qu'ils ont vus dans un autre cadre. Ce lien entre le musée des enfants et le musée principal, les galeries permanentes, est aussi une chose assez novatrice. Alors, je voudrais terminer cette présentation en disant que le musée du Louvre à Abu Dhabi, c'est bien autre chose que ce bâtiment exceptionnel de Jean Nouvel et cette collection. C'est également, donc, dans le bâtiment, la présence de l'art contemporain, donc, notamment avec de l'art ancien et contemporain, d'ailleurs, puisque vous voyez que vous avez ici à droite une des versions de L'homme qui marche de Rodin qui a été achetée pour la collection du Louvre à Abu Dhabi. Et vous reconnaissez sans doute ici une des œuvres de Pennone qui a été commandée pour Abu Dhabi. Et vous devinez également, donc, derrière l'homme qui marche de Rodin, des murs gravés. Ici, en effet, une commande à Jenny Holzer de quatre murs gravés des textes fondamentaux de l'humanité, et notamment ici une tablette cunéiforme, donc dans cette écriture des débuts de la naissance de l'écriture du troisième millénaire avant Jésus-Christ, qui est un des récits donc du déluge et de la naissance de l'humanité et de la survie de l'humanité après le déluge. Autre œuvre ancienne. Donc ce pavement donc, d'une maison damascène du XVIIIe et XIXe siècle. Mais le Louvre à Abu Dhabi, c'est également, comme je vous l'ai dit, une politique d'exposition. Alors, quel est l'esprit, la ligne éditoriale des expositions que les musées français, grâce à l'agence France Museum, veulent mettre en scène à Abu Dhabi? Nous avons souhaité commencer par les fondements, c'est-à-dire, puisque ce musée porte le nom du Louvre, raconter l'histoire du Louvre, avec aussi une autre dimension pédagogique, c'est que, et je voudrais insister sur cette conséquence heureuse de la création du Louvre à Abu Dhabi, les collections françaises sont connues, internationalement connues. Pour autant, pour la première fois, nous publions en arabe. Pour la première fois, des cartels, des audioguides sont faits en langue arabe. Et nous en voyons une conséquence importante sur les réseaux sociaux déjà, mais aussi dans la presse, c'est-à-dire que tout un monde est en train de s'emparer des collections françaises. Les commente, alors avec aussi l'esprit critique qui caractérise notre société, mais la question des restitutions, la question des provenances, la question de l'origine des collections se pose avec une acuité à laquelle nous devons répondre, et je pense que c'est plutôt une chance pour les musées français d'expliquer pourquoi, en effet, ces collections sont présentes dans le patrimoine français aujourd'hui. Alors, nous avons voulu rappeler l'esprit des Lumières et l'esprit du musée du Louvre en organisant cette première exposition consacrée justement d'un Louvre à l'autre, qui évoquait le parcours des collections françaises du musée du Louvre au château de Versailles et la création du musée avec la place des artistes, donc la relation avec l'art contemporain. Un musée est-il fait pour les artistes? Est-il fait pour la rénovation des arts, comme on disait au XVIIIe siècle? Un musée est-il fait pour un autre public? Voilà, donc toutes ces questions qui ont été posées à l'occasion de cette exposition dont j'ai eu l'honneur d'être le commissaire général. Voilà quelques œuvres avec des déplacements spectaculaires, puisque la Diane de Versailles, donc l'antique le plus célèbre des collections collection royale française qui a été à Fontainebleau, au Louvre, à Versailles et puis de nouveau au Louvre, a quitté la France pour la première fois et est revenue au musée du Louvre. Donc vous pouvez de nouveau l'admirer. Un mot pour dire justement cette conséquence. La première conséquence heureuse, c'est que les musées français rencontrent dans le Golfe un nouveau public. Ce nouveau public, c'est d'abord celui donc de cette scène arabe naissante. Et vous voyez ici qu'au-delà du Louvre à Abu Dhabi, je me permets de présenter ici un certain nombre d'actions que l'établissement que j'ai l'honneur de diriger mène dans cette région du monde. À la fois, nous fouillons au Soudan, nous fouillons en Égypte, nous fouillons en Iran. Et nous avons des collaborations aussi bien en Irak, en Jordanie, en Israël, en Palestine. Voilà. Donc, ce qui fait que au Bahreïn comme au Qatar. Donc, prendre l'exemple du Louvre, l'action des musées français existe. Mais pour la première fois, nous avons fait un pas vers ce public-là, et nous le rencontrons. Et ce public, bien entendu, et ceux qui ont visité ce musée ont été frappés par cette diversité, c'est bien entendu le public émirien, c'est le public du Golfe. Je répète, hein, pour la première fois, des gens de langue arabe s'emparent des collections nationales françaises, mais c'est aussi le public qui vient à Abu Dhabi. D'abord, les gens qui vivent à Abu Dhabi, qui y travaillent, et c'est d'abord essentiellement des gens qui viennent du continent asiatique, des Indiens, des Pakistanais, des Sri Lankais. Et on voit l'attention, hein, la vocation de ce pays qui se veut un pont. Alors vous le voyez ici dans cette carte, hein, le Pakistan, l'Iran et le Pakistan sont bien entendu plus proches des Émirats que la lointaine Méditerranée ou que l'Occident européen qui n'est qu'un confin de leur monde. Et ça, c'est l'autre dimension. C'est-à-dire que les musées français rencontrent à Abu Dhabi ce public qui connaît peu ou mal encore les collections françaises. C'est le cas du public indien qui, avec le public du Sri Lanka, semble être, dans les premières enquêtes de public, le public le plus abondant donc à Abu Dhabi. Et bien entendu, voir le monde et comprendre les cultures du monde depuis Abu Dhabi, entre le continent asiatique et l'Afrique, ce n'est pas la même chose que de le voir depuis la France. Donc, je répète, et c'est une chance pour les musées français, c'est une chance, je crois, pour la France, que cette expertise soit mise sur ce piédestal-là. Donc, vous voyez ici, et que nous disposions ainsi, sans doute, le meilleur moyen de défendre à la fois les valeurs que sont celles des musées français et du musée du Louvre en particulier. Je vous remercie.
Merci Jean-Luc Martinez pour la clarté et la précision de votre exposé. Laurent, notre secrétaire perpétuel, souhaitait intervenir.
Oui, d'abord, je dois vous dire qu'à vous entendre, on comprend beaucoup plus facilement pourquoi vous occupez ces fonctions que vous occupez et pourquoi vous avez été renouvelé. C'est absolument passionnant. C'est une région du monde où, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, lors de la première guerre du Golfe, les soldats qui avaient été amenés là-bas au moment de Noël n'avaient pas le droit de porter une croix. C'est donc une région du monde, évidemment ça varie selon les pays, qui ne semblait pas, à première vue, montrer une tolérance extraordinaire. Or, ce qu'on vient de voir est tout à fait fascinant. Je ne m'attendais pas à voir là une Torah, à voir toutes choses d'éléments. Donc, me poser la question, est-ce que cet aspect de pluralité a été précisé dans les contrats? Est-ce que la pluralité, et notamment sur certains sujets comme ça, est présente aussi dans la collection qu'achète et que construit le musée, ou est-ce que c'est simplement des prêts? Et enfin, est-ce qu'il reste malgré tout des sujets ou un type d'œuvre qui ne serait pas possible de montrer? Est-ce qu'on peut montrer la création du monde dans ce musée?
De Courbet.
Oui. Ce n'est pas précisé.
Je vous répondrai sur la première partie de votre question et ensuite je n'éluderai pas la réponse à la deuxième partie de votre question. Laurence, Anne sont là, Marc également, Jean Guéguinou, qui est membre de notre conseil d'administration, peuvent témoigner que nous n'avons jamais connu ni aucune pression, ni aucune instruction en matière de censure ou de limitation. Voilà. Et ça s'est fait de manière très fluide. Je pense que faut pas confondre tous les pays. Donc, je me permets de dire, par exemple, qu'aux Émirats Unis, les femmes conduisent. Bon, voilà, que le port du voile n'est pas obligatoire. Voilà, qu'il y a des églises chrétiennes, donc qu'elles sont construites officiellement. Mais une fois que je vous ai dit ça, votre question, vous pourrez la poser à n'importe quel responsable de musée français. C'est-à-dire que, j'espère ne pas vous scandaliser, je vais parler de moi-même, je suis spécialiste d'art grec, il y a dans l'art grec des scènes de zoophilie, elles sont présentées au musée du Louvre. Pour autant, je ne mettrai pas sur le site internet, comme affiche, je ne proposerai pas dans une galerie pour enfants, donc des scènes de zoophilie, alors que ça existe. Donc il n'y a pas de censure au musée du Louvre, pour autant il y a une prudence, qui est simplement de la politesse, donc vis-à-vis de certaines susceptibilités. Donc, par exemple, nous, les journalistes français, ne s'intéressaient qu'au nombre de nus présents dans la collection. Donc, Laurence a fait acheter des nus, j'ai fait acheter des nus. Donc, voilà, donc il y a des nus dans la collection. Donc, pour autant, dans un monde dans lequel, dans l'espace public, le nu est absent, on n'a bien entendu pas la même sensibilité que dans un monde comme le nôtre, où... plein de raisons, le nu est non seulement présent dans l'espace public, mais il est même omniprésent dans l'espace public. Donc on n'a pas la même sensibilité. Ce qui fait que quand vous me dites est-ce que l'origine du monde pourrait être présentée, qu'est-ce que vous appelez présentée ? C'est-à-dire, même le musée d'Orsay n'en fait pas la couverture et ne l'affiche pas sur la façade de la gare d'Orsay, n'est-ce pas, chère Laurence ? Donc voilà. Pour autant, même en France, je pense qu'on prend des précautions pour alerter le public sur ce type.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Non, pas particulièrement. Oui, pardon. Bernard Perry.
Oui, vous avez présenté dans la chronologie l'invention de la photographie. Or, effectivement, vous n'avez pas mis d'image qui montre la présence de cette photographie. Et comme la photographie n'est pas au Louvre, officiellement, elle aurait pu l'être dans une préfiguration du Grand Louvre du temps de François Mitterrand. J'avais été consulté pour que la photographie puisse rentrer au Louvre. Ça n'a pas été fait parce que c'est un autre promoteur qui a été choisi. Donc, comment est-elle représentée et au nom de par quelle collection, par quelle photographie, etc.
Alors, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais votre question me permet d'insister sur un autre défi qui est celui de cette présentation, qui est celui du mélange des techniques et donc des matériaux. Parce qu'il est bien entendu, si dans les musées, généralement, nous distinguons la sculpture de la peinture, du dessin ou des arts décoratifs, c'est bien entendu que les conditions de conservation d'ensoleillement, de nombre de luxe sont bien entendu très très différentes. Je me permets de dire ça parce que c'était un des défis. Comment présenter dans un même espace une sculpture qui aurait pour laquelle il faudrait une lumière naturelle, ce qui est possible grâce aux verrières créées par Jean Nouvel, de la peinture, pour laquelle l'éclairage zénithal serait préférable, et des objets photosensibles, des œuvres photosensibles. On a réussi, mais du coup, ce n'est pas tellement photogénique. Je pense que c'est assez réussi dans la visite, mais c'est difficile à prendre en photo. Donc, les photographies sont présentes à l'introduction de la salle du 19e siècle, donc, qui est plutôt une salle consacrée à la deuxième moitié du 19e siècle, sont présentes également dans les productions du 20e siècle, avec des œuvres qui proviennent donc, des collections du musée Guimet, puisqu'il y a également donc, des albums donc de photographes donc iraniens notamment, des photographies qui proviennent des collections du musée d'Orsay, donc voilà, des photographies qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France et un fonds propre qui a été constitué donc à la fois des toutes premières photographies et daguerreotypes donc jusqu'aux présentations donc vous avez entreaperçu. Donc simplement, je vous rappelle là, donc les photos de Man Ray, donc qui sont présentées dans la salle consacrée donc au XXe siècle. Je crois que j'ai mis une photo. Voilà. Donc la photographie est présente comme le cinéma l'est avec un partenariat avec où est-ce que j'avais mis ça avec les frères Lumière. Mais c'est vrai que c'est une collection qui reste à développer avec la volonté de développer cette collection. Voilà, donc la seule photographie que j'ai montrée sous les yeux, avec la volonté de montrer le phénomène comme un phénomène mondial et très rapidement. C'est-à-dire que dès les années 1850, donc il y a des ateliers de photographie donc en Iran, au Brésil, et donc la politique d'acquisition des Émirats arabes unis consistera à essayer de représenter ce phénomène et de la même manière par le cinéma. Il est intéressant de noter, par exemple, que tout le monde connaît l'entrée dans la gare, de la sortie d'usine, etc., donc des frères Lumière. Ce type de film, sortie d'usine ou l'entrée d'un train en gare, de la Ciotat, donc pour citer celui des frères Lumière, à peu près dans la même décennie, donc on retrouve la même, le même type de production à Tokyo ou à Mexico. Et c'est ce phénomène-là, vous voyez, et ça vaut aussi pour la peinture, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ou la sculpture. Il ne s'agit pas d'avoir une collection qui présente l'ensemble de la production photographique du 19e siècle et du 20e siècle et du 20e siècle. Il s'agit d'essayer, dans une collection encore modeste, de mettre en valeur le phénomène de la diffusion donc, d'un art et de sa... finalement, de son développement dans tel ou tel foyer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre...
Oui, Claude Abeille.
Oui, le Louvre à Paris avait et a toujours, je pense, une sorte de dimension pédagogique. Est-ce que cette dimension existe aussi à Abu Dhabi ?
Alors c'est l'autre défi, bien entendu, comment présenter dans un pays où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de musée, parce qu'il y a des musées, mais qui sont des musées archéologiques, donc qui présentent le passé le plus ancien des cités, comment présenter ces cultures ? C'est un défi pour nous aussi, hein, donc responsables de musées, parce que, inutile de vous dire que personne, je pense, dans cette salle, à commencer par moi, personne ne maîtrise la connaissance de chacune de ces cultures et de ces civilisations. Donc ça rend modeste. Donc comment avons-nous fait ? L'Agence France Muséum a travaillé d'abord à, comme je l'ai dit, une appropriation, à créer un public. Un public, ça se crée. C'est-à-dire, avec ces conférences organisées en amont, avant même l'ouverture du musée, autour des œuvres et autour des acquisitions, progressivement de parler des œuvres et d'apprendre à les regarder et une forme d'éducation du regard. Donc ça, c'est des actions d'appropriation. L'exposition de 2013 de Laurence, comme sa réédition à Paris, a été aussi le moyen de tester des outils de médiation, pour utiliser le vocabulaire, c'est-à-dire quel type de cartel et quel type de carte. Alors, il y a en effet, en termes d'outils de médiation, des cartes, donc qui sont des cartes animées. Donc, il y a eu toute une réflexion sur les cartes animées dans ce musée, puisque, bien entendu, les représentations du monde sont très différentes. Si vous allez dans un musée japonais, le Japon est au centre du monde. Vous allez dans un musée chinois, donc la Chine est dans le centre du monde. Et pendant très longtemps, donc, dans les planisphères européens, l'Europe était presque au centre du monde. Donc, dans cette, là, on est parti donc d'un globe qui tourne sur lui-même, donc, et qui met en valeur un certain nombre de cultures, ce qui nous permet, en effet, d'avoir une présentation plus simple. Bon. Donc des cartes animées, des cartels donc trilingues, français, anglais, arabe. Et également, donc, nous avons testé autres outils pédagogiques, des films. Alors bon, on pourrait parler des heures de la présence des films et du film documentaire dans le musée. Ce qui a été testé là, c'est à la fois des vrais films documentaires, hein, avec des contenus qui expliquent une technique, qui expliquent une composition, voilà, mais aussi tout simplement des films qui apprennent à regarder. Parce que pour un public peu familier, j'ai sous les yeux, par exemple, bien entendu, la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci, donc même un public très très éloigné de la culture, l'œuvre a été mise en scène, les journaux en ont parlé, ils viennent la voir. Mais vous voyez, par exemple, les bronzes inscrits donc, du musée Guimet, qui sont des prêts très exceptionnels du musée Guimet. A priori, le public éloigné de la culture ne peut pas comprendre l'importance des œuvres comme celle-ci. Et donc là, l'outil, c'est-à-dire finalement l'écran, donc est disposé à côté, est là pour attirer l'attention. Vous êtes en train de passer à côté d'une œuvre que nous estimons importante. Bon, voilà, et simplement, vous voyez, d'utiliser l'écran comme moyen d'attirer l'attention sur une œuvre qui peut être... parce que ces critères esthétiques échappent peut-être à la culture du grand public, donc auraient échappé. Et puis, il y a également un certain nombre d'outils qui ont été développés pour les malvoyants, toute forme de handicap, et là aussi au service du grand public. Parce que c'est très intéressant de pouvoir toucher les œuvres. C'est une des grandes frustrations du musée, ça, ne pas pouvoir toucher les œuvres, notamment la sculpture. Et donc là, avec des œuvres en trois dimensions, donc, ces œuvres, elles sont d'abord, bien sûr, du public malvoyant, mais aussi du public voyant, pour pouvoir se rendre compte de appréhender les volumes. Donc, voilà à peu près ce qui a été développé avec l'idée, mais l'ambition est grande. Hein. L'ambition est grande. Donc, vous vous rendez compte le nombre de cultures, de techniques, d'artistes à évoquer. Bon, c'est... voilà. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour rendre cette collection et ce parcours le plus clair possible. Mais il y a beaucoup d'outils à la disposition du public. Et puis, il y a également un audio guide. Ce qu'on a constaté pour le public, c'est que c'est un public très, 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 très sage. C'est-à-dire que très respectueux du musée et très avide d'apprendre. Alors, il a une pratique qui n'est pas la nôtre, comme ils ont tous des portables, ils photographient tout ce qu'ils voient, et ils photographient notamment les cartels. Visiblement, ils ne les lisent pas là, mais ils photographient tout. Ils photographient les cartels et ils lisent le cartel sur leur portable. Donc, bon, voilà, ce qui est une pratique particulière. Donc,
les cartels ne sont jamais assez gros dans les musées. Oui, c'est bien connu.
Mais là, même les plus jeunes d'entre eux font systématiquement ça, et vraiment avec la volonté d'approfondir les choses.
Merci beaucoup. Vous avez évoqué tout à l'heure la transparence et la polémique. Toute polémique est éteinte aujourd'hui quand on voit la qualité de ce projet et l'intérêt de ce projet pour la France.
Vous ne lisez pas la presse.
Merci en tout cas de votre présence. Merci.